Europe 1, Philippe Googler.
Et tout à l'heure, après le flash de 17h, nous partirons pour l'univers incroyable du Cambodge. C'est un pays extrêmement riche en émotions de toutes sortes. Ça va des îles paradisiaques aux jungles profondes, à Phnom Penh, la capitale si différente, si calme par rapport aux grandes cités bouillonnantes d'Asie. C'est vraiment un pays que j'aime beaucoup. On vous fera découvrir tout ça tout à l'heure. Pour l'heure, nous sommes en Bretagne et Dieu sait qu'il doit y avoir des histoires fortes dans cette région très riche. Nathalie, racontez-nous.
Oui, j'ai envie de vous parler d'un personnage qui a traversé les années sans prendre une ride.
Chantal Goya.
Oui, non, c'est pas l'histoire de Chantal. Hein. Non. C'est l'histoire de Bécassine. Alors, effectivement, une histoire très longue. Vous allez voir, elle commence en février 1905. Jacqueline Rivière est la rédactrice en chef de la Semaine de Suzette. C'est un magazine pour petites filles modèles de la bourgeoisie. Et cette dame s'aperçoit au dernier moment, juste avant le bouclage, ce qu'on appelle le bouclage dans nos métiers, qu'il y a une page blanche. Donc, elle improvise une histoire marrante. La petite boniche bretonne, juste débarquée de sa province, qui comprend rien, qui confond tout, et qu'on ne comprend pas bien non plus à cause de son mauvais français, de son accent. On dit qu'elle baragouine, les bretonnes.
Ah ouais. Et pourquoi Bécassine ? Pourquoi ce nom-là ?
Eh bien, en fait, sa créatrice la baptise au départ Anaïg Labornaise, enfin la bornée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelqu'un qui est borné.
C'était pas très sympa pour les Bretons, tout ça.
Vous allez voir, pas du tout sympa. Elle est née à Clocher-les-Bécasses, enfin dans l'histoire. Donc, évidemment, elle la surnomme, non pas Bécasse, mais Bécassine, parce que c'est un peu plus doux. Puis elle la place chez une aristocrate, la marquise de Grantaire, comme bonne d'enfant. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'à l'époque, il y a une émigration bretonne très importante. Il y a beaucoup de jeunes femmes, jeunes filles qui débarquent, gare Montparnasse, et qui se place comme domestique et bonne d'enfant dans la capitale. Et la Bretagne, c'est synonyme de valeur morale, d'ordre, d'obéissance, de piété. Enfin, dans l'esprit de la bourgeoisie, c'est une vision très conservatrice de la société. Le succès, en tout cas, est immédiat. Les dessins sont exécutés par Émile-Joseph Pinchon, les textes d'abord écrits par Jacqueline Rivière, puis ensuite par l'éditeur de la Semaine de Suzette lui-même, Maurice Langereau, qui signe Comrie. Tout ça, ça donne 25 albums entre 1913 et 1939, vendus à, écoutez-moi bien, 1 200 000 exemplaires.
Ah, c'est dingue.
C'est-à-dire un succès d'édition absolument exceptionnel. Et le dernier album est paru bien, bien plus tard, en 1992. Il s'appelle Bécassine au studio, c'est-à-dire que la série, les albums ont continué bien après ces époques-là.
Mais alors, est-ce que ça veut dire que Bécassine, c'est l'ancêtre de la BD ?
Oui, parce qu'elle est née 3 ans avant Les Pieds Nickelés, 24 ans avant Tintin. Donc, c'est vraiment la doyenne des héros de BD. Et en plus, c'est une femme. Et d'ailleurs, les spécialistes de la BD, ils disent que Pinchon et Comrie ont été les précurseurs de Hergé parce qu'il y a un trait rond, vif, moderne. C'est un portrait lunaire, cette Bécassine. Elle n'a quasiment pas de bouche. Puis c'est un personnage qui a le don de s'attirer des ennuis. Par exemple, parce qu'elle ne sait pas utiliser la technologie moderne, comme on dirait aujourd'hui. Elle ne connaît surtout pas les usages sociaux, mais elle s'en sort toujours bien au final. Et puis surtout, elle adore les enfants et on aime son empathie. Mais elle est quand même mal vue chez les militants bretons, notamment dans les années 70, parce qu'il y a des préjugés de type colonial à l'égard de la province qui sont ressentis. Et c'est pas tout à fait faux.
Mais au départ, c'était un peu moqueur pour les Bretons, mais en vrai, elle était très sympathique et c'est ce que tout le monde a aimé.
Sympathique, puis elle monte un peu en grade parce qu'elle va aider sa patronne, donc finalement, elle devient beaucoup plus importante qu'elle n'était au départ. Elle est un peu plus que la simple bonne d'enfant du départ.
D'accord. Alors Nathalie Elal, vous êtes décidément très forte puisque vous avez réussi à nous trouver en Bretagne une femme corsaire.
Oui, alors on dit souvent que les Bretonnes ont du tempérament, et bien Jeanne de Belleville, surnommée la lionne sanglante.
La lionne sanglante.
Oui, à cause de sa cruauté. C'est une histoire incroyable, mais vraie, entre amour, haine et flibusterie. Alors Jeanne est issue d'une famille noble, c'est une épouse, une mère de famille comblée. Elle est mariée à un certain Olivier de Clisson. Mais nous sommes en 1341, il y a une guerre de succession en Bretagne, et son mari a pris le parti de ce qu'il fallait pas, c'est-à-dire qu'il soutient le roi Édouard III d'Angleterre. Alors, un jour, son mari est invité à un tournoi. En 1343, il se rend à Paris et c'est un guet-apens parce que les partisans de Philippe de Valois, donc l'ennemi juré d'Édouard III d'Angleterre, vont s'emparer d'Olivier de Clisson, le font décapiter. Sa tête est fichée sur une pique, envoyée à Nantes, exposée en place publique. Et Jeanne de Belleville vient contempler la dépouille de son mari. Elle est folle de douleur, folle de rage. Et elle fait le serment à ses deux enfants, à ses deux fils, de venger leur père. Et là, elle passe du côté obscur de la force.
Que va-t-elle faire ?
Eh bien, elle est soutenue par de nombreux seigneurs bretons. Elle vend tous ses biens. Elle achète un bateau pour mener ce qu'on appelle des guerres de course. En fait, c'est une expression qui désigne les opérations navales des corsaires contre les navires français et pour nuire au roi de France. Donc elle va armer d'abord un bateau direction l'Angleterre pour rencontrer Édouard III qui va lui donner 3 vaisseaux de guerre. Et savez-vous comment elle baptise le sien ?
Je sais pas.
Vengeance ! Revenge ! Et durant plusieurs années dans la Manche.
La couleur, hein.
Ah oui, tout est clair. Elle va arraisonner de nombreux navires de commerce français et même des navires de guerre. Elle va massacrer les équipages vaincus. Elle va trancher elle-même à coups de hache les têtes en souvenir de son mari. Évidemment, ça va.
Elle était costaud, alors.
Moi, j'adore les sacrées bonnes femmes. Hein. J'adore. J'ai trouvé un personnage magnifique, là. Alors, ses exploits, évidemment, finissent par excéder Philippe VI en personne qui va ordonner sa capture. Elle se retrouve finalement encerclée, toujours en mer, hein, bien sûr. Elle abandonne assez lâchement, faut bien dire, son équipage. Elle s'enfuit dans une chaloupe avec quelques hommes. Et
abandonne tout le monde.
Elle abandonne tout le monde, sauf ses fils. Malheureusement, son fils cadet meurt au bout de quelques jours. Elle va s'échouer près de Morlaix. Et puis heureusement, elle est récupérée par des partisans. Donc elle reste libre, elle n'est pas captive. Mais elle est quand même ruinée, bannie du royaume de France. Elle va se réfugier à la cour d'Angleterre, épouser un noble. Enfin, tout va bien quand même. Elle rentre en France et finit sa vie là-bas, hein, en Bretagne, en 1359. Mais elle n'aura pas réussi à récupérer ses titres et certaines de ses propriétés. Donc finalement, elle a perdu pas mal de choses.
Ouais, enfin, elle s'en sort pas trop mal.
Ouais, c'est matériel.
Ouais, enfin bon, c'est un peu flippant, mais j'en ai une encore plus flippante. Si j'avais eu le temps, ça aurait été génial. Mais on n'a pas le temps.
Allez-y. Bon, une autre bretonne.
C'est la serial killeuse bretonne Hélène Jégado qui a tué quand même à peu près 97 personnes. Elle les a empoisonnées. Elle était cuisinière. Voilà.
Ah bon, mais pourquoi les a empoisonnées ?
Eh bien, parce qu'elle était cuisinière, elle empoisonne à l'arsenic.
Et pourquoi ?
On ne sait pas, on n'a jamais compris le mobile. En tout cas, c'est la serial killeuse bretonne et puis peut-être la plus grande serial killeuse mondiale.
Ah oh.
Oui.
Bon, très bien. Merci beaucoup Nathalie Elal. Dans un petit instant, la Bretagne vue par Emmanuel Jarry, notre gourmande sur Europe 1.